Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est le deuxième numéro de l'année 2026 et comme je vous le disais la semaine dernière, l'activité redémarre doucement dans les salles de concert et d'opéra. Le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole se tient jeudi 16 janvier et vous avez rendez-vous avec la saison des Clés de Saint-Pierre le lundi 19. Et puis concernant la saison d'opéra au Théâtre du Capitole, un des événements de l'année y a lieu du 23 au 29. Il s'agit de la création française de La Passagère, l'opéra de Weinberg, une œuvre de la seconde moitié du XXe siècle que va nous présenter Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Robert est accompagné de son complice et ami de longue date, Serge Chauzy, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Notre trio est reconstitué pour cette émission et nous allons la commencer comme d'habitude en revenant sur l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à tous les deux, merci d'être fidèles au rendez-vous. Nous allons ouvrir ce retour arrière avec un concert auquel nous avons assisté tous les trois la semaine dernière, celui des Capsper Girls, le 6 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines, dans le cadre de la saison des Arts Renaissants. Quatre filles dans le vent et dans le froid, parce qu'il ne faisait pas chaud du tout ce soir-là à Toulouse. Le programme était intitulé « Que fais-tu ?» Que fais-tu ? Et Serge, on s'est vraiment régalé en écoutant ces quatre excellentes musiciennes, dont deux chanteuses.
Ah oui, tout à fait. C'est vraiment un quatuor de musiciennes et chanteuses, mais les chanteuses sont d'autant
sont
musiciennes,
aussi musiciennes
que les instrumentistes. Alors, il faut quand même préciser que ces Capsper Girls sont constituées de Gabrielle Varbetian, soprano, Axel Werner, mezzo-soprano, et puis Garance Boiseau, qui joue de la viole de gambe, et Alban Hemps, qui joue à la fois de l'archilute, enfin pas en même temps évidemment,
non,
et de la guitare baroque, et qui dirige cet ensemble. Alors cet ensemble qui, immédiatement, m'a évoqué la cohésion d'un grand quatuor à cordes. On a l'impression d'entendre, c'est un ensemble constitué, chacun y tient son rôle, mais avec vraiment une unité, une complicité extraordinaire. Avec
chacun,
une...
même chacune.
Ah oui, oui, chacune.
Ce
ne
sont
oui,
que des filles.
Avec d'abord les qualités de base, si je puis dire, la justesse
oui.
et la précision du rythme, mais également la sensibilité du jeu. Vraiment, c'est une complicité formidable entre ces quatre musiciennes. En plus, pendant le concert, elles ont présenté à la fois les œuvres et leurs instruments avec grande pédagogie et beaucoup d'humour.
Oui,
et donc,
oui, oui.
Ça, c'était vraiment intéressant.
Très, très agréable.
Oui, oui. Et donc, elles ont développé un programme qui est élaboré autour des grandes œuvres de Hieronymus Capsberger, puisque c'est Capsberger.
Oui, c'est la figure tutélaire de l'ensemble.
Voilà, qui est exactement... c'est quelqu'un, quand même, il faut le repréciser, parce qu'il n'est pas hyper connu, c'est quelqu'un qui est né en 1580 et mort en 1651, donc vraiment de la Renaissance. Hein. Et donc, tout le programme est balisé par des œuvres de Capsberger. Et puis, il y a d'autres compositeurs contemporains de Capsberger qui balisent aussi, qui sont intégrés dans le programme. Mais ça fait un programme riche hein, et très varié, donc qui a été très judicieusement regroupé en sept groupes qui associent chacun des œuvres de Capsberger, en particulier d'abord, et puis des partitions proches, donc, avec une succession des étapes musicales qui donne vraiment à chacune et à l'ensemble l'occasion de briller dans des nouvelles combinaisons instrumentales et vocales qui sont rares et qu'on entend très rarement. Alors, en particulier, parmi les autres œuvres que celles de Capsberger, il y a eu la célèbre, elle est célèbre celle-là, Sulla cetra amorosa de Tarquinio Merula, chantée avec la soprano. Et puis, avec ces changements d'instruments, ce passage de l'archilute, qui est un instrument magnifique, hein,
oui,
l'archilute,
oui, oui.
Vraiment impressionnant par sa longueur, par sa grandeur. Et puis la guitare baroque, dont la musicienne vraiment traduit tous les détails et toutes les merveilles. Alors, la dernière de ces étapes musicales retrouve donc Hieronymus Capsberger avec quelques mélodies touchante. C'est vraiment ce que j'ai encore le plus apprécié. Avec une berceuse, Figlio Dormi, c'est-à-dire Dors mon fils, qui est vraiment subtilement chantée par Axel Werner, la mezzo-soprano. Et puis, O fronte serena, donc front serein. Et puis, Spiega, spiega, lève la voile, par l'ensemble complet. Alors, il y avait plusieurs formations, quelquefois une seule chanteuse, un seul instrument, quelquefois deux instruments, une chanteuse, et quelquefois les quatre. Un grand plaisir d'écouter cet ensemble de qualité optimale. D'ailleurs, elles ont obtenu des récompenses nombreuses, par la foi des revues musicales. Vraiment, ce n'est que logique. Alors, il y a eu un accueil chaleureux, très chaleureux du public, qui a obtenu un petit prolongement de ce voyage avec, encore une fois, une pièce de Kapberg qui s'appelle « À l'ombre », tout est dit. Et donc, je peux dire que ce premier concert de l'année 2006 des Arts Renaissants a en quelque sorte illuminé ce début d'année.
Robert, vous étiez présent. Qu'est-ce que vous avez pensé des voix des deux chanteuses que nous avons entendues ce soir-là?
Alors, d'abord, je voudrais dire, je crois, Serge, qu'en fait, c'est d'autant plus méritant que ce n'était pas la formation habituelle.
Oui, il y avait changement.
Il y avait un changement, un peu, je crois, au dernier moment, de la soprano.
Je crois que c'est la soprano qui n'est pas la soprano, soprano habituelle
la
soprano de l'ensemble.
Et donc, il faut le souligner parce que,
mais vraiment,
honnêtement, pour ceux qui ne le savaient pas...
On ne s'en est pas aperçu.
C'était
mieux qu'une remplaçante.
J'ai insisté aussi sur les conditions, parce qu'il faisait froid.
Il faisait très froid, oui.
Pas évident, surtout quand on a des instruments baroques.
Justement,
les cordes et les voix aussi.
La personne qui était à l'archilute et à la guitare baroque, passer son temps à se réchauffer les mains.
À se
chauffer les mains également. Oui.
Réaccorder, puisque les changements de température influent beaucoup
C'est terrible.
Sur les cordes en boyau.
Oui. Voilà. Non, mais c'était bien sûr, c'était très beau. Mais ce que je dois dire, c'est que tout ce petit monde-là, tous ces quatre dames, ont fait beaucoup d'efforts pour justement, malgré tout, nous faire intégrer la dramaturgie de ces mélodies.
Il y avait toutes les présentations qui précédaient les œuvres qu'elles jouaient. Alors, les présentations des instruments, mais aussi les présentations des œuvres et des compositeurs. Parce que je peux vous dire que Pasquini, Colombi, Pellegrini, je ne suis pas certain que beaucoup de gens dans la salle les connaissaient. On a fait beaucoup de découvertes ce soir-là. Effectivement, c'était magnifique. Pour illustrer et conclure ce retour sur le concert des Kapsberg Girls mardi dernier à Saint-Pierre-des-Cuisines, nous allons les écouter dans une interprétation de la pièce de Kapsberger qui donnait son titre au programme qu'elles ont donné, Kefaitu.
Spieghi quel filo, onde va, ciò morre.
Que fais-tu? Que fais-tu? Pièce de Hieronymus Kapsberger, interprétée par les épatantes Kapsbergers. Vous noterez que le prochain concert de la saison des Arts Renaissants a lieu le mardi 3 février à 20h, encore à Saint-Pierre-des-Cuisines, où va se produire l'ensemble Café Zimmermann dans un programme dédié à Bach et Telemann. Ce lundi 12 janvier, nous avions rendez-vous avec notre ami Thibaut Garcia, le guitariste dont tout le monde parle et que tout le monde s'arrache. Il était en concert avec l'Orchestre National de France à la Halle au Grain, à l'invitation du cycle des grands interprètes. Il y avait un très joli programme, Serge, à la gloire de l'Espagne essentiellement, même si les compositeurs qui ont été joués n'étaient pas tous espagnols eux-mêmes.
Loin de là, hein, à commencer par le premier qui était russe, donc
oui.
Rimsky-Korsakov. Mais enfin, il faut rappeler qu'il s'agissait là du 8e concert de la 40e saison, nombre important, hein, donc de grands interprètes,
symbolique.
Et donc qui a ramené à Toulouse l'Orchestre National de France, qui était venu il n'y a pas très longtemps, hein, en 2024 même, il était encore déjà là.
Oui, ce sont des invités réguliers.
Oui, oui, absolument. Par contre, le chef japonais Yutaka Sado, je crois que c'était la première fois qu'il venait.
Je ne connais pas.
Bon,
moi,
ouais. Thibaut Garcia, évidemment, on n'en parle pas.
Non.
Donc, il est inutile de...
Enfin, si, on va en parler, mais bon, on ne va pas le représenter.
On va en parler, oui, oui, ça oui. Oui, parce que vraiment, je crois que ça a été quand même le sommet du concert, hein, son
oui.
intervention. Alors donc, tout a commencé avec ce que Rimsky-Korsakov a titré donc le Capriccio espagnol, qui ouvrait cette joyeuse exploration ibérique, on pourrait dire. On a pu admirer immédiatement les caractéristiques de dynamisme et de virtuosité de tout l'orchestre. Et plus encore, les qualités globales, ce sont les qualités individuelles des solistes. Moi, j'ai été vraiment ébloui par la flûte solo, par exemple, le violoncelle solo, la clarinettiste. Vraiment, tous les solos instrumentaux étaient mis en valeur par ces musiciens vraiment admirables, hein, le cor anglais en particulier. Donc,
très bon.
Alors, le cor anglais qui avait évidemment une intervention primordiale dans la deuxième œuvre au programme, qui était le concerto d'Aranjuez, là aussi qu'on ne présente plus beaucoup, hein, de Joaquín Rodrigo, donc qui enchaînait dans cette première partie. Alors, cette partition, elle est aimée de tous les publics, hein, et elle a d'ailleurs été enregistrée par Thibaut Garcia, qui s'est vraiment imposé comme l'un des musiciens les plus doués pour interpréter cette œuvre, et pas que cette œuvre. Là, je voudrais insister sur le fait qu'il doit être qualifié de musicien plus que d'instrumentiste. Il a une technique et une virtuosité sans faille, mais il les utilise pour faire de la musique. Et c'est ça qui est important. Alors là, nous avons assisté évidemment à ce concerto avec un grand orchestre, hein, et donc le soliste était évidemment sonorisé, mais avec un son qui se mariait parfaitement sur le plan de l'équilibre avec les richesses colorées de l'orchestre. Et ça, c'est admirable, hein. Et là, on a eu donc ces richesses dès l'allegro con spirito initial. Mais alors, je dois dire que c'est l'adagio, là, emblématique,
fameuse
qui a
adagio
atteint ce soir-là un sommet d'émotion. Je dois dire que j'ai moi-même été très ému par ce passage-là.
Le morceau s'y prête, mais encore faut-il arriver à le faire sonner
comme
il se doit.
Voilà. Et puis la poésie avec laquelle Thibaut a phrasé cette sublime cadence qui conclut le mouvement, c'est une véritable apothéose expressive, vraiment une merveille. Et donc, on a pu enfin redescendre sur terre avec l'allegro final. Bon, il a eu évidemment un véritable triomphe et il a offert non pas un, mais deux bis, et deux bis très contrastés.
Excusez-moi, j'y étais pas, mais oui. Rien que de t'écouter, tu me donnes le frisson. Bon, voilà. Mais est-ce qu'au travers des mots que tu emploies, tu ne veux pas dire que plus qu'un musicien, c'est un véritable artiste?
Oui,
tout
oui,
simplement.
Bon, oui,
voilà.
Oui, mais il fait de la musique. Hein.
Non, mais il fait de la musique, tu comprends ce que je veux dire quand même.
Oui,
voilà,
mais
bon,
c'est proche, c'est artiste et musicien.
Oui, mais
hein.
Tu sais, il y en a beaucoup. Il y a des chanteurs qui chantent très bien, qui
ne
font passer aucune émotion.
Ils ne se contentent pas de faire les notes.
Pour lui, d'après ce que tu me dis.
Ils ne se contentent pas de faire les notes.
Voilà, ils ne se contentent pas de faire des notes.
Il apporte une émotion, une interprétation, il s'approprie l'œuvre.
Voilà, pour moi, c'est la définition d'un artiste, d'un vrai artiste.
C'est vraiment un grand.
Mais je crois que c'en est un. Chopin, effectivement.
Ah oui, ça, il n'y a aucun doute.
Absolument. Et là, donc, il a offert deux bis, cette fois, très contrastés, il faut dire. Le premier puise dans le réservoir baroque, puisqu'il a joué Les Voix humaines, qui a été composé par Marin Marais, originalement pour la viole de gambe, mais alors qui sonnait ici avec une douceur indicible. C'était une
Là aussi, il en fait
merveille.
Quelque chose. C'est du Thibaut Garcia, quoi.
Oui,
c'est
oui,
du Marin Marais à la base, mais c'est du Marin Marais joué par Thibaut Garcia. Et c'est pas comme si c'était joué par un autre.
Exactement. Et puis, on pouvait tester l'impact sur le public par le silence qui accompagnait ça.
Et même après.
Et même après, oui, exactement. Quand ça s'achève, on hésite avant
d'applaudir. Souvent, les gens se précipitent pour applaudir.
Non, là, c'est pas le cas.
Tout le monde sent que...
Alors, c'était différent avec le deuxième bis, puisqu'il s'agissait de la comparsita tango, hyper connue, donc, auquel il a donné un peu ses lettres de noblesse. Bon, tango immortel, évidemment, et ça a été vraiment un grand, grand plaisir, là aussi.
Voilà, donc c'était la première partie de ce concert, et avant de poursuivre votre retour sur cette soirée, Serge, je propose que nous réécoutions Thibaut Garcia dans un extrait du Concierto de Aaron Juez de Joaquin Rodrigo. Il s'agit du premier mouvement Allegro con Spirito, dans la version que Thibaut avait enregistrée il y a quelques années avec les musiciens de l'Orchestre National du Capitole. Thibaut Garcia jouait le premier mouvement Allegro con Spirito du Concierto de Aaron Juez de Joaquin Rodrigo, un extrait du CD qu'il avait enregistré en 2020 avec l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Ben Glasberg. Et donc, après avoir accompagné le guitariste toulousain pour l'exécution de cette œuvre, l'Orchestre National de France a poursuivi seul le concert, toujours sous la direction de Yutaka Sado, il va de soi. Quelles autres pièces étaient au programme, Serge ?
Alors, cette fois, c'était toujours des pièces liées à l'Espagne, mais cette fois, c'était la vision de l'Espagne d'un certain Georges Bizet, essentiellement. On a eu d'abord trois extraits de la deuxième suite de l'Arlésienne.
Bon, ça, c'est pas trop espagnol, a priori.
A priori, non. Mais
Bizet, comme chacun sait, connaissait très bien l'Espagne.
Oui, il n'y a jamais mis les
pieds.
Pour
n'y avoir jamais mis les pieds.
Exactement. C'était
comme
une
Debussy, d'ailleurs, qui avait composé Iberia, mais qui n'a pas mis les pieds non plus en Espagne.
Exactement. Donc,
mais à l'époque, il y avait beaucoup de compositeurs espagnols en France. Donc, devaient la visiter à travers la musique et puis leur conversation avec Albéniz,
Falla
ou autre.
Oui.
Ben, le génie, c'est ça.
Hein. Exactement.
Ouais. Et donc, les trois extraits de la deuxième suite de l'Arlésienne, donc c'était pastoral, intermezzo et menuetto. Là, vraiment, on a retrouvé les belles couleurs françaises de la phalange parisienne, avec une direction qui lui a conféré une espèce de solennité poétique, je dirais, à cette...
On sait aussi à quel point les japonais, les musiciens japonais admirent la musique française.
Absolument. Et puis, en fin de concert, je reviendrai sur une pièce intermédiaire. Il a dirigé des extraits des deux suites de Carmen de Bizet. Là, on est vraiment dans l'Espagne profonde, en quelque sorte. Il a fait le choix d'extraits très dynamiques, essentiellement dynamiques, qui constituent une sorte de résumé de l'opéra, avec tout d'abord les toréadors, deuxièmement le prélude, ensuite la habanera, et il a terminé par la chanson bohème. Donc là, c'était très dynamique, très vivant, très coloré.
Tout le monde s'en est donné à cœur joie, le chef et les musiciens.
Ah, tout à fait, oui. On sentait qu'il y avait un bonheur de jouer.
Il y avait une joie de jouer,
oui, absolument. Et puis, entre les deux pièces de Bizet, il y avait, alors pour ma part, une découverte d'une certaine Maria Rodrigo, qui n'a aucun lien avec Joaquin. Alors, c'est une pièce là aussi très colorée, très brillante, que le chef a dirigée avec la même ferveur et le même enthousiasme. Bon, une découverte, hein, donc, intéressante, de cette Maria Rodrigo. Pour la situer, elle est décédée en 1967.
Voilà. La contemporaine de Rodrigo, le plus connu.
La plus connue des deux, oui. Voilà. Exactement. Ça a été très applaudi, évidemment. Et il y a eu là aussi des bis. Avec vraiment des choses incroyables, un premier bis qui était encore un extrait de l'Arlésienne, c'était le minuetto de l'Arlésienne avec la flûte solo et la harpe solo.
Formidable flûtiste.
Magnifique flûtiste, magnifique harpiste, c'était vraiment splendide. Et puis ensuite, on a changé de monde. On a eu l'impression d'assister à un concert du Nouvel An à Vienne.
Pas très loin, il n'y a pas si longtemps.
Oui. C'était le premier bis, c'était la Pizzicato Polka de Strauss, donc.
Ah oui, son fils.
Voilà. Et
le troisième bis.
Le troisième bis, c'était un galop de la famille
Strauss, toujours. Strauss. On ne sait plus si c'est le père ou le fils.
Oui, je ne sais plus. Hein. Donc là, vraiment, ça finissait aussi en accélérant.
Très enlevé,
tout
ce qu'on veut.
Une chose incroyable.
De toute façon, toute la famille Strauss a composé des galops.
Mais on n'ose pas dire le nom du compositeur parce qu'on ne sait pas si c'est le père ou le fils.
Mais peu importe.
L'un des deux, allez.
L'un des deux, oui.
Je ne pense que c'est pas celui du père.
Ou l'un des trois, ça pourrait être Joseph.
Oui,
mais je pense que c'est Johann Strauss, peut-être un, comme on dit.
Bon,
le père.
Bon, mais d'accord, c'est toi.
Je me mouille un peu.
D'accord.
Bon, pourra vérifier.
Voilà,
c'était une soirée superbe,
très vivante,
grâce à Thibaut Garcia et grâce aux musiciens de l'Orchestre National de France, dirigé par Yuta Casado. Pour terminer la recension de ce concert du 12 janvier, ce retour arrière, nous allons écouter l'Orchestre National de France dans ses œuvres. Il interprète ici la farandole de l'Arlésienne de Georges Bizet. Thank you. La farandole de l'Arlésienne de Georges Bizet par les musiciens de l'Orchestre National de France. Le prochain concert du cycle des grands interprètes est programmé lundi 27 janvier à 20h, toujours à la Halle aux Grains, avec le duo formé par le pianiste David Frey et le violoniste Daniel Lozakovic. Fin de cette première partie d'émission, une courte virgule musicale de quelques secondes. Et l'on se retrouve avec Serge Ozy et Robert Pénavert pour notre rubrique Agenda. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Nous allons ouvrir cet agenda avec la prochaine production à l'affiche de l'Opéra National du Capitole du 23 au 29 janvier pour 4 représentations. C'est La Passagère, un opéra contemporain que nous devons à Mieczysław Weinberg, compositeur d'origine polonaise mort en 1996. Il a composé cette œuvre en 1968, mais elle n'a été créée sur scène qu'en 2010, en Autriche, au festival de Bregenz. La création française a donc lieu à Toulouse en 2026. Robert nous présenter cet opéra et cette production, mais peut-être faut-il d'abord que nous disions un mot sur Weinberg lui-même, parce que je doute qu'il soit très connu de nos auditeurs, Robert.
Alors, peut-être, mais au cas où, on va dire trois mots, que simplement, voilà. Donc, Mieczysław Weinberg est né en 1919, c'est un compositeur polonais qui a émigré en URSS, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ça c'est pour le situer dans le temps. Et au moment où il arrive à Moscou, il est pris sous son aile par un très grand compositeur qui était déjà en activité, qui est Dmitri Shostakovich, qui sent en lui vraiment un énorme potentiel, et d'ailleurs un énorme potentiel qui, s'il est exploité aujourd'hui, nous permettrait d'écouter plus de 500 compositions différentes qui vont des symphonies, un requiem, des concertos, beaucoup de musique de chambre, cet opéra, etc., etc., etc. Enfin, c'est colossal. Et en fait, il n'est pas très connu. Toi, Serge, tu as eu la chance, tu te souviens?
Ah oui, je me souviens, il y a une douzaine d'années, à la Halle aux Grains, nous avons entendu le concerto pour flûte de Weinberg, et qui était joué par Sandrine Tilly en soliste, la soliste de l'Orchestre National du Capitole. C'était dirigé par Tugan Sokiev, avec donc l'Orchestre du Capitole, et ça a été une belle révélation. C'est de la très belle musique, très facile à écouter, hein. Ça n'est pas une musique...
Voilà, faut pas être effrayé par le fait que ce soit un compositeur du XXe siècle, peu connu.
Dit contemporain, non, c'est vraiment une belle musique riche et colorée.
Alors, il n'est pas connu parce qu'en fait, c'était un peu à l'image d'un Schubert, c'était un homme discret et il est resté complètement dans l'ombre de Shostakovich. Après, ce n'est pas tout. Il était un communiste convaincu, juif de confession et artiste jugé décadent à cette époque-là, à tel point
par
que
le pouvoir soviétique.
Il a, à l'époque de Staline, donc évidemment, il a été pourchassé, voire menacé, il a été emprisonné.
Bah après l'antisémitisme d'Hitler, il y a eu celui de Staline.
Absolument. Les historiens disent qu'il n'a dû sa survie qu'à la mort de Staline.
Oui. C'est ça.
Il y en a quelques autres comme ça qui ont dû leur survie à la mort de Staline.
Voilà.
Parfois quelques jours près.
Voilà, exactement. Donc, cet homme-là, malgré tout, a continué à écrire. Et évidemment, il n'a jamais été nommé de son vivant compositeur d'État. Et comme vous le disiez, Eric, il est décédé en 1996. Donc, c'est un contemporain.
Oui, complètement.
C'est un contemporain.
Il y a pile 30 ans.
Voilà. Alors, depuis quelques années, heureusement, de grands interprètes comme le violoniste Guidon Kremer, ainsi qu'un très grand chef d'orchestre qui s'appelle Thomas Anderling, remettent ses œuvres à leur programme et même les imposent. Mais la résurrection, entre guillemets, de Weinberg à l'échelon au moins européen, c'est la création de La Passagère en 2010 au festival de Bregenz. Puisque, bon, effectivement, cet opéra a été composé en 1970, mais il était interdit, il faut savoir ça. Oui. Donc, fort heureusement, le festival de Bregenz en a fait une production scénique. 40 ans après.
Oui, il y a une version concert en 2006, je ne sais plus trop où. Et donc la création, l'opéra complet, avec les décors, la mise en scène, c'est 2010, au festival de Bregenz en Autriche.
Alors, ça a fait l'effet d'une bombe, parce que tout le monde s'est aperçu tout d'un coup qu'on tenait là un opéra majeur du XXe siècle. Voilà. Donc immédiatement, de grandes scènes comme Vienne, Munich, Amsterdam, Tel Aviv évidemment, on verra après pourquoi, et bien d'autres maisons l'affichent, mais la France s'est tenue à l'écart.
Oui.
Et donc là, je pense qu'il faut saluer l'audace, le courage.
Hein,
de Christophe Christie, d'être le pionnier
en France,
en matière lyrique, bien évidemment, de Weinberg en France, puisque le Capitole sera la première scène à l'afficher. Alors, on va parler du contenu, parce que c'est quand même important.
Oui, c'est une histoire forte.
Le livret, oui, le livret d'Alexander Medvedev, je ne pense pas que c'est...
Non.
Que ça n'a rien à voir avec un autre Medvedev très connu.
Plus connu aujourd'hui.
Il s'inspire lui-même d'un roman de l'écrivaine polonaise Zofia Pojmisz, et un roman qui a déjà fait l'objet, d'ailleurs, pour les amateurs de cinéma, je le signale, d'une adaptation en 1963 devant la caméra d'Andrzej Munk. Alors, c'est une histoire en partie fictionnelle, mais malheureusement seulement en partie, puisqu'elle fait référence à des souvenirs très précis. Et n'oublions pas également qu'une grande partie de la famille de Weinberg est décédée dans les camps de concentration. Le lever des rideaux, nous nous trouvons en pleine mer. C'est un paquebot de croisière, de luxe, n'ayons pas peur des mots. Et nous sommes sur le premier pont et nous faisons connaissance avec un couple d'Allemands, Lisa et Walter, qui sont tout simplement en villégiature. Tout se passe bien jusqu'à ce que, au détour d'une déambulation sur les ponts, Lisa, tout d'un coup, a le cœur qui s'arrête un peu de battre, émotionnellement parlant, puisqu'elle croise le regard d'une passagère, d'où le titre de l'opéra, et dans cette passagère, elle reconnaît Martha. Immédiatement, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Mais c'est très compliqué parce qu'en fait, Lisa a un passé. Alors, nous sommes dans les années 55-60, c'est-à-dire en gros un peu plus de 10 ans après la fin du second conflit mondial. En fait, Lisa a un passé un peu lourd. Elle a été gardienne à Auschwitz. Or, en voyant Martha, elle reconnaît une des femmes...
Qu'elle a torturée,
exactement. Mais... qui s'en est sorti. La chose se complique encore plus assez rapidement, parce que Walter ne comprend pas pourquoi tout d'un coup...
Elle n'est pas dans son assiette.
Sa femme, oui, c'est ça Eric.
Mais il voit que son comportement a changé.
Sa femme, tout d'un coup, paraît très troublée, et elle finit par lui avouer son passé nazi.
Et oui, qu'il ne connaissait pas, lui.
Et que Walter ne connaissait pas. Alors, on ne vous raconte pas tout, évidemment.
Pas.
Sauf qu'à partir du moment où elle va raconter ça à Walter, va commencer une série de flashbacks qui, de temps en temps, va nous faire déménager du pont supérieur du paquebot dans un autre univers qui est l'univers des camps de concentration.
L'univers concentrationnaire.
Et dans lesquels, sur scène, nous allons... voir, pas revivre, évidemment, on ne peut pas avoir des mots pareils, mais l'internement de Martha, de Tadeusz, son fiancé, et de plein d'autres personnes de nationalités différentes. Alors, autant vous dire que cet opéra, ce n'est pas fondamentalement du beau marché.
Oui.
Voilà. C'est un opéra...
L'histoire ne prête pas à la grande rigolade, on s'en doute un peu.
Voilà. C'est un opéra... très émotionnante, très émotionnelle, et dont on ne sort pas indemne, très clairement. Voilà.
Dès qu'on aborde cette période, ce n'est pas à chaque fois la grande badrouille, si vous voyez ce que je veux dire.
Voilà. Mais il est d'une puissance émotionnelle. Enfin, Serge, tu l'as vu.
J'ai vu la vidéo qui a été faite à partir de la production de Bregenz.
Voilà.
Donc, qui existe donc. Ah oui, non, c'est terrible. Hein.
Voilà. Et alors, ces flashbacks, en fait, permettent donc des changements d'atmosphère. Quand nous sommes là-haut, sur les ponts supérieurs, la musique est adaptée, c'est-à-dire c'est la musique de salon, la musique de croisière, il y a du jazz, des choses. Mais dès que nous descendons, évidemment, dans le camp de concentration, la musique est évidemment beaucoup plus dramatique.
Adaptée à l'atmosphère.
Voilà. Et alors, ce que je voudrais dire, d'abord, ce système de flashback, c'est très cinématographique. Oui. Alors, pourquoi je voudrais parler de cinéma ? Parce qu'en fait, n'oublions pas que Weinberg a été un très grand compositeur de musique de film. Il a composé la musique de 65 films, dont un qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 1958 et que vous connaissez tous, Quand passent les cigognes, avec l'incroyable Tatiana Ismailova. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que finalement, même je pense, si l'on dit que c'est une musique, vous le disiez Eric, c'est une musique qui ne doit pas faire peur, c'est une musique vraiment, entre guillemets, mais évidemment, ce n'est pas du Shostakovich, mais enfin, c'est une musique tonale, mais qui s'écoute de manière très simple, très spontanée, très directe, qui ne doit pas faire peur parce que ça a été écrit à cette époque-là, pas du tout. On n'est pas dans Schoenberg, on n'est pas dans Berg ou Webern ou de gens comme ça. Donc on pourrait même dire, et je pense que dans ma bouche très clairement, ce n'est pas une injure, c'est une très grande musique de film, très très grande, parce qu'en fait, cet opéra, c'est un film. Oui, il est monté comme un film et il est très cinématographique. Voilà.
La distribution.
Alors, la distribution, elle est très nombreuse et très compliquée. Il y a 14 rôles, dont deux monumentaux, c'est Lisa et Martha. Ce sont des rôles très longs et très lourds dramatiquement. Elles ont un poids immense à porter sur leurs épaules tout de même. Alors, ce n'est pas un rôle qui va chercher dans des extrémités belcantistes comme les puritains ou des choses comme ça, pas du tout. Non, mais c'est des rôles très lourds dramatiquement à porter. Voilà. Alors, cela dit, il y a un rôle quand même qui va sur une tessiture très tendue de soprano colorature, c'est celui d'Yvette, mais c'est un rôle un peu court. Et deux rôles qui vont chercher par contre les contrebas des registres de contralto, puisqu'on va on a des sols, des la graves terribles. Et en particulier, il y a un second rôle qui est le rôle de Bronca, qui est une prisonnière évidemment, qui a une prière, qui est un véritable requiem, qui vous fait fondre en larmes littéralement. C'est d'autant plus compliqué que cet opéra, et Christophe Christy tenait à ce que ce soit fait comme ça au Capitole, contrairement à d'autres maisons que je n'y citerai pas, mais qui n'hésitent pas à en donner des versions uniquement allemandes. Au Capitole, tous les rôles seront chantés dans leur langue d'origine. C'est ainsi qu'on entendra chanter allemand, polonais, russe, tchèque, français et yiddish. Voilà, évidemment, c'est sous-titré.
Bonne chance aux polyglottes.
Et bonne chance aussi à celui qui s'occupe du surtitrage.
Oui, ben ça, je pense que ça a dû être bien fait.
Oui.
Alors, donnez les noms des chanteurs.
Alors, les chanteurs, ce sont tous, pour les trois quarts, en prise de rôle, sauf pour le rôle de Martha,
oui,
qui sera chantée par Nadia Stefanov, qui, elle, l'a déjà à son répertoire. Après, Lisa Sanag-Morel, que l'on connaît bien.
Oh, oui.
Puis on retrouvera Ayram Hernandez, Mireille Timoshenko, Céline Labori, Victoire Buñuel, etc.
Ah oui, ça, ce
voilà.
Sont des...
Alors, un mot encore sur le chef, Francesco Angelico, que l'on connaît parce qu'il est venu diriger à Toulouse les dernières reprises de Mephistopheles. Et dès qu'il a su qu'il y avait une passagère qui se murmurait, s'est précipité à genoux. J'aimerais en être.
Ouais.
Voilà, il a rêvé. Mais à ce qui paraît, que le chef rêve de diriger cette partition.
Comme il a été très peu dirigé jusqu'alors, en plus, ouais. Ça se comprend. Alors, il semblerait aussi que ce soit un chef-d'œuvre.
Ouais.
C'est une bonne raison aussi.
Voilà.
Donc, il y a quatre représentations, les 23, 25 à 15h, 27 et 29 janvier, ça c'est à 20h. Et donc, la soprano Nadia Stefanov est une spécialiste du rôle de Martha dans La Passagère. Nous allons l'écouter maintenant dans l'épilogue de l'opéra de Mieczysław Weinberg.
Thank you.
Nadia Stefanov dans l'épilogue de La Passagère, l'opéra de Mieczysław Weinberg, une œuvre à découvrir à l'Opéra National du Capitole du 23 au 29 janvier. Je rappelle, il y a quatre représentations, les 23, 25, 27 et 29, pour cette production mise en scène par Johannes Rettmeier. Avant cela, ce jeudi 16 janvier à 20h à la Halle au Grain, l'Orchestre National du Capitole, qui sera dans la fosse bien sûr pour La Passagère, est déjà mis à contribution lors d'un concert que va diriger le chef allemand Markus Pochner pour ce qui doit être une première à Toulouse en ce qui le concerne. Il y a aussi un soliste invité, Serge, que lui, en revanche, nous connaissons déjà.
Ah oui, depuis longtemps, il s'appelle Chad Hoops, c'est un violoniste américain qui a commencé ses études à Minneapolis et puis qui est déjà venu tout jeune. Au début, nous avons assisté à sa progression et donc c'est intéressant de le retrouver au bout de quelques années. Et il sera là pour interpréter le concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn, l'un des plus célèbres concertos romantiques, évidemment. Et puis, le chef Markus Pochner dirigera la symphonie numéro 4 de Brahms et, en ouverture de concert, une œuvre alors à découvrir, puisqu'il s'agira de Midsummer Song, d'une compositrice lituanienne qui s'appelle Raminta Cherksnité. Alors, je ne garantis pas la prononciation. Voilà, ce sera par cette œuvre-là, Midsummer Song, que débutera le concert. C'est une compositrice qui est née en 1975. Ça la situe un peu dans l'histoire musicale récente.
La même génération que Markus Pochner.
Exactement.
Voilà. Donc, Chad Hoops, je rappelle, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était le soir de ce fameux concert dirigé par Tarmo Peltokoski, oui, où fut décidé, une bonne fois pour toutes, de l'embaucher, comme en tout cas de lui proposer de devenir le directeur musical, puis le directeur artistique de l'Orchestre National du Capitole. C'était il y a 2 ans, je crois. Et Chad Hoops va donc jouer le concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn, ce jeudi à la Halle au Grain, accompagné par l'Orchestre National du Capitole. Le voici dans une interprétation du célèbre premier mouvement Allegro Molto Appassionato, lors d'un concert dirigé déjà, et oui, c'était par Tarmo Peltokoski. Chad Hoops jouait le premier mouvement Allegro Molto Appassionato du concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn sous la direction de Tarmo Peltokoski. Le violoniste américain le rejoue ce jeudi 16 janvier avec l'Orchestre National du Capitole, dirigé cette fois-ci par Markus Pochner. Et enfin, dernier rendez-vous à noter dans notre agenda et dans vos agendas, le prochain concert de la saison des Clés de Saint-Pierre, lundi 19 janvier à 20h. À Saint-Pierre des Cuisines, comme d'habitude, nous allons y entendre des trios pour piano dans un programme sous-titré à la mémoire d'un grand artiste, joué par trois musiciens que Serge va se faire un plaisir de nous présenter.
Et comment ? Il s'agit donc du violoniste Vitali Raskasov, bien connu à l'Orchestre du Capitole, de la violoncelliste Aurore Dassès également, et d'un pianiste Tom Grimaud qui vient se joindre à ses deux complices, donc pour donner un programme avec deux trios simplement. Le premier, c'est le trio donc en sol majeur de Claude Debussy, du jeune Debussy.
Oui, il a 18 ans là, quand il le compose.
Exactement. C'est vraiment un embryon, en quelque sorte, de ce que sera la musique de Claude Debussy. Et puis le deuxième, alors c'est ce deuxième trio qui a donné son titre au concert, La mémoire d'un grand artiste. C'est le trio opus 50 en la majeur de Tchaïkovski.
En la mineur.
En la mineur, excusez-moi. Oui, effectivement.
Ah oui, mais enfin quand même, bon.
Ah ben oui, évidemment.
J'ai sursauté.
Et comment ? Puisque c'est ce trio qui a pour sous-titre « À la mémoire d'un grand artiste ». Et ce grand artiste, c'était Nikolaï Rubinstein, qui venait de décéder. Et donc Tchaïkovski a voulu lui dédier...
Un hommage, lui dédier ce trio.
Donc c'est une œuvre magnifique, hein, ce trio, mais une œuvre de maturité.
Absolument. Alors on parlait de... Debussy, qui avait 18 ans quand il compose son trio pendant l'été 1880, c'est le seul d'ailleurs, je crois, qu'il a composé, trio pour piano. Et il résidait chez Nadeja von Meck, qui était la mécène et protectrice de Tchaïkovski. Donc il y a un lien entre les deux.
Et oui, oui, oui.
Et les œuvres sont assez voisines dans le temps, puisque Tchaïkovski compose son trio à la mémoire d'un grand artiste en 1882. C'est à peu près la même période, mais pas du tout. Ils ne sont pas dans la même maturité, l'un et l'autre, chacun de ses compositeurs. Alors, dans le trio pour piano plus 50 de Tchaïkovski, il y a 11 variations, et j'ai choisi de vous faire écouter la sixième, celle qui est sous-titrée « Tempo di valse ». Tempo di valse, c'est la sixième variation du trio pour piano opus 50 à la mémoire d'un grand artiste de Tchaïkovski, l'une des pièces au programme du prochain concert des Clés de Saint-Pierre, lundi 19 janvier à 20h, l'autre étant le trio pour piano de Claude Debussy. La billetterie est en ligne à l'adresse www.lesclésdesaintpierre.org. pour le concert de l'Orchestre National du Capitole avec le violoniste Chad Hoops ce jeudi 16 janvier à 20h, la Halle au Grain, où vont être donnés le concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn, la symphonie numéro 4 de Brahms et donc cette pièce d'une compositrice lituanienne. Il faut vous connecter au site www.onct.toulouse.fr pour acheter et réserver vos places. Et puis, concernant la production de La Passagère, l'opéra de Mieczysław Weinberg, je rappelle que les représentations ont lieu à l'Opéra National du Capitole du 23 au 29 janvier. Il y en a 4 les 23, 27 et 29 à 20h. Et celle du dimanche 25 janvier est à 15h. Cette nouvelle production est mise en scène par Johannes Reckmeyer. Et la billetterie est en ligne à l'adresse www.opera.toulouse.fr. Je remercie infiniment mes amis Serge Chosy et Robert Pénavert pour leur précieux concours dans l'animation de cette émission. Merci également à Coraline Camebrac qui l'a réalisé. Le podcast est téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à vous tous de votre fidélité à l'écoute de Mélomanie. Très bonne semaine musicale à tous.